Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mouhamadou Oumfa.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur la situation des médias dans le Sahel. De nombreux organes de presse vivent toujours des moments difficiles dans cette partie du continent. Une situation engendrée notamment par l'intensification des attaques des groupes armés, l'arrivée au pouvoir des régimes militaires, les durcissements des législations, les menaces et autres intimidations des journalistes. La situation économique précaire complique davantage la situation. À suivre le reportage de notre correspondant à Bobo-Dioulasso, Alidou Ouédraogo, et l'analyse de notre invité Sadi Boumaran, directeur du Bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières. Nous irons ensuite au Nigeria où de jeunes innovateurs et des start-up cherchent à révolutionner le secteur agricole grâce à la technologie. Le fait marquant de la semaine, ce sont les inondations qui ont frappé le Mali ces derniers jours, causant plusieurs morts et de nombreux dégâts matériels. Nous en parlerons avec Sepou Tangara, directeur de la télévision Africable. À suivre enfin le reportage de Ange Nomenyo, notre correspondant à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il nous fera découvrir un restaurateur ivoirien atypique, américain dans l'âme, propriétaire des restaurants Texas Grills. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Comme dans d'autres pays du Sahel, au Burkina Faso, la presse traverse une période difficile, une véritable crise qui a déjà entraîné la fermeture de certains médias. Ceux qui tiennent encore ont du mal à payer les salaires, comme on va le voir dans ce reportage de notre correspondant à Bobo-Dioulasso, Alidou Ouédraogo.
Nous nous sommes d'abord rendus au siège du journal Libération, président de l'Association des professionnels de médias de l'Ouest et par ailleurs directeur de publication du journal Libération. Ahmed Zerbo nous parle de la principale difficulté de l'heure.
Avant, on parlait de la liberté de presse. Alors, les journalistes sont plus libres de dire ce qu'ils veulent. Alors, je pense que les journalistes doivent effectivement aller dans le sens de la vision des autorités actuelles. Donc, aujourd'hui, il est très difficile pour un journaliste vraiment de s'exprimer librement, exprimer sa pensée comme il le veut.
Ouest-Info est un média en ligne bien connu dans le paysage médiatique. Aujourd'hui, il peine à apparaître. Madi Bazier en est le directeur de publication.
Aujourd'hui, quand un journaliste veut traiter une question, notamment des questions en lien avec la situation sécuritaire, on se pose vraiment mille et une questions. Est-ce qu'on ne se peut traiter de l'antidilfe d'apartheid ou de ne pas aimer le régime ou ne pas aimer quelqu'un?
Aujourd'hui, Ouest-Info peine à payer ses travailleurs. Et c'est loin d'être un cas isolé.
Nous sommes dans un secteur un peu particulier, le secteur des médias aujourd'hui qui fonctionne beaucoup plus, comme vous le savez, sur la publicité, sur les publics reportages et autour. Et compte tenu de la situation du pays aujourd'hui, rares sont des entreprises aujourd'hui qui mènent des activités qui nécessitent des couvertures médiatiques.
Au titre des difficultés actuelles de la presse, Muntamu Kani, le directeur du journal L'Express du Faso, le seul quotidien de Bobo-Dioulasso, cite le système d'imposition des impôts.
Les entreprises de presse ne sont pas des entreprises, comme je l'ai dit, ordinaires. Ce ne sont pas des entreprises comme toutes autres entreprises. Mais malheureusement, nous sommes dans le même registre d'imposition. Une entreprise qui produit du ciment, une entreprise qui produit de la craie, une entreprise qui produit du papier. Et ça, c'est très compliqué. C'est très difficile.
À la rédaction du journal L'Express du Faso, les journalistes s'adaptent à un nouveau narratif, celui qui est en phase avec le contexte. Ali Konaté, chef de la rédaction.
La guerre informationnelle, elle est réelle. Il nous appartient d'adapter aussi notre narratif et comprendre que la situation est blessée et qu'il y a un certain nombre, effectivement, de libertés qui peuvent être menacées par cette situation que nous devons pouvoir comprendre.
À Bobo-Dioulasso, les médias sont en difficulté avec des journalistes
ayant du mal à percevoir leur salaire, une situation qui pousse certains professionnels de médias à chercher un second boulot. Ali Ouédraogo, Bobo Dulasso pour VOA Afrique.
Alidou Ouédraogo, que nous retrouvons tout de suite à Bobo Dulasso au Burkina Faso. Bonsoir Alidou.
Enfin, bonsoir.
Alors, on vient de suivre votre reportage sur la situation des médias au Burkina Faso. Alors, première question, Alidou, vous-même qui êtes journaliste, à titre personnel, racontez-nous, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans l'exercice de votre métier? Quelles sont les difficultés que les médias avec lesquels vous collaborez rencontrent au quotidien?
Il faut l'avouer, l'exercice du métier est devenu très, très difficile, voire compliqué ces derniers temps. Mais contrairement à ce qu'on pense, la première crainte des journalistes et des médias, ce ne sont pas les autorités militaires, mais les soutiens de la transition qu'on appelle ici les Wahi, hein, parce que pour un mot mal placé, vous pouvez tout de suite avoir tout le monde sur votre dos. Ce qui fait qu'actuellement, nous marchons comme si sur des œufs et on essaie de s'adapter à la nouvelle donne. En ce qui concerne bien sûr les médias avec lesquels nous collaborons,
oui,
particulièrement avec VOA Afrique, il n'y a pas de problème. C'est le seul média international d'ailleurs ici qui est vraiment en qui les soutiens de la transition croient toujours. Donc nous ne rencontrons aucune difficulté sur le terrain quand il s'agit de VOA. Il faut dire qu'ils font confiance plus à cette radio même qu'à à certains médias locaux.
Alors, Alidou Ouédraogo, dans votre reportage, hein, parmi les difficultés évoquées, l'un des intervenants parlait d'un registre d'imposition. Dites-nous en plus, est-ce qu'il y a un problème là-bas avec les médias qui ne parviennent pas à payer les impôts? Qu'est-ce qui se passe?
Oui, il y a un très gros problème parce que il y a même pas longtemps déjà, on a vu beaucoup de médias dont les impôts ont fermé les portes. Hein. On parle de régime d'imposition, comme il a dit déjà dans le reportage, vous savez, selon que vous soyez une SARL ou une société anonyme, il y a un registre d'impôts pour tout le monde. Donc les entreprises de médias sont classées dans le même registre que, par exemple, des sociétés qui produisent du riz ou bien du ciment ou bien en tout cas des sociétés commerciales qui font en tout cas de grandes entrées d'argent. Pourtant, quand on regarde ici, la presse, le principal fournisseur de la presse ici, c'est l'État. Très souvent, ça ne va pas, ça ne coince pas. Ils n'arrivent pas à honorer leurs impôts. Donc, il n'est pas rare ici de voir, même de grands médias, hein, voir ses portes fermées par les services des impôts.
Merci beaucoup, Alidou Ouédraogo, correspondant de VOA Afrique à Bobo Dioulasso. Alors, pour une analyse, retrouvons tout de suite à Dakar, au Sénégal, Sadibou Maran. Il est le directeur du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières. Bonsoir, Sadibou.
Bonsoir, Moufa.
Voilà. L'année dernière, on se rappelle, hein, Reporters sans frontières avait publié un rapport intitulé « Dans la peau d'un journaliste au Sahel », un rapport qui notait la dégradation de la situation des médias dans cette partie du continent. Est-ce qu'il y a eu une évolution? La situation a-t-elle changé?
Malheureusement, la situation ne s'est pas améliorée dans le Sahel d'une manière générale, qu'il s'agisse du Niger, du Burkina ou du Mali. Si on s'arrête sur le Niger... Alors, donc, il s'est passé le fait qu'il y a eu aussi de nouvelles autorités militaires sur la base d'un coup d'État, avec, disons, ce qu'on pourrait considérer comme la vague de suspension plus ou moins arbitraire un peu de médias internationaux et l'expulsion également de journalistes et le fait et l'interdiction d'accès à la presse internationale d'une manière générale et cette loi, la modification de cette loi sur la cybercriminalité qui a quand même disons la possibilité de que les militaires eux-mêmes l'utilisent de manière abusive pour emprisonner et censurer les journalistes qui exercent en ligne et une maille à partir avec la justice. Et ce n'est que récemment que le dernier journaliste qui avait été arrêté pendant quelque temps a été libéré. Donc la situation ne s'est pas améliorée d'une manière générale. C'est le cas également au Burkina Faso où elle s'est, pour nous, du point de vue de l'analyse, c'est empiré. Actuellement, il y a au moins 4 journalistes ou considérés comme tels, en tout cas 2 chroniqueurs et 2 journalistes, dont Serge Atiana Oulon, qui sont jusque-là introuvables. Nous, l'analyse que nous avons est que bon, ils se trouveraient probablement au front, en tout cas pour le cas de Serge Oulon, ça, c'est en train de se confirmer de plus en plus sur la base des dernières déclarations du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, et les conditions également d'arrestation sont des conditions extraordinairement dures et troublantes. Pour l'essentiel, c'est des gens qui sont arrêtés par des hommes armés, mais également des hommes encagoulés. Donc, cela également, ça pose problème et c'est une nouvelle donne qu'on voit dans le contexte du Burkina. Au Mali aussi, il y a de plus en plus un peu le fait que certains sujets considérés comme tabous qui sont toujours un peu en porte-à-faux avec ce que les autorités militaires eux-mêmes, elles-mêmes souhaiteraient un peu lire, entendre ou voir, sont difficilement traitables par un journaliste, si bien que les journalistes qui traitent des sujets estampillés sensibles, sont obligés un peu d'être soit de quitter le pays ou bien en tout cas ils auront des problèmes. Il y a également enfin dans tout le Sahel la question des soutiens, hein, le comportement des soutiens des autorités militaires, qu'il s'agisse du Mali, du Burkina ou du Niger. De plus en plus, nous avons l'impression qu'il y a cette persécution souvent en ligne, hein, contre les journalistes qui sont censés faire simplement leur travail, et les soutiens aussi qui les menacent en ligne ou bien des fois physiquement. Ça, voilà. Aussi, c'est d'être un problème.
Oui, alors, des menaces et intimidations dont parlait tout à l'heure notre correspondant Alidou Ouédraogo, mais revenons au Sénégal, où vous vous trouvez. C'est un pays connu pour être un modèle de stabilité et de démocratie. Hein. Récemment, les patrons de presse ont organisé une journée presse morte pour décrier des mesures fiscales et économiques imposées par le gouvernement. Comment est-ce que vous réagissez, vous, à Reporters sans frontières, par rapport à cette actualité?
Bon, pour nous, d'une manière générale, au Sénégal, la situation des médias est quand même assez préoccupante. Bon, mais il est clair que les difficultés de la presse sénégalaise ne datent pas de l'arrivée des nouvelles autorités. Cela aussi, c'est important à préciser. Mais néanmoins, nous, nos recommandations, c'est que les nouvelles autorités ne peuvent rester insensibles à cette chape de plomb qui pèse sur le secteur des médias, avec le fait qu'il y a des jeunes reporters qui sont dépourvus de contrats de travail. Il y a aussi la question des dettes fiscales qui, pour nous, sont de plus en plus lourdes. Et aussi une certaine crise de confiance entre les médias et le public. C'est la raison pour laquelle, pour nous, c'est extrêmement difficile, c'est compliqué, mais il est important que se veille à ce que cette Sénégalais d'une presse bouillonnante et n'aboutissent pas à ce qu'on pourrait considérer comme une crise du droit à l'information. Les journalistes, c'est effectivement, les patrons de presse, effectivement, ont une série de revendications, mais on a vu aussi une certaine ouverture qui est partie du conseil de la table du conseil de avec le président Bassirou Diomaye Faye, qui a demandé un peu à ce qu'il y ait un peu un dialogue pour des réformes rénovées, pour des mesures hardies en faveur de la presse. Et cela pour nous est extrêmement important pour aller vers cela. Et les entreprises de presse aussi doivent s'acquitter de leurs obligations fiscales au regard de la loi. Mais au-delà de cela aussi, pour nous, il est important d'aller vers des mesures très ambitieuses pour une réforme en profondeur de ces aides publiques-là aux médias.
Oui, Sadi Boumaran, parlons justement des recommandations de Reporters sans frontières. Alors, quelles sont vos recommandations déjà par rapport aux journalistes qui exercent dans la région et qui sont visiblement sous pression, et par rapport aux autorités de la région, excepté ce que vous venez de dire, c'est-à-dire les régimes d'imposition?
En fait, sur les régimes d'imposition, nous pensons, de point de vue de l'analyse, hein, bon, c'est quelque chose qu'on a vu un peu émerger ces derniers temps, et c'est parti pratiquement du Burkina Faso depuis pratiquement le début de l'année. Il y a eu quand même des mesures assez sévères en termes d'impôts à payer. Après, il y a le cas du Sénégal, mais la question de fond, c'est que c'est la spécificité un peu de l'impôt sur les médias, parce que quand même, on ne peut pas. Les médias font un service public utile aux populations. population. Et de ce point de vue, ces services publics-là devraient pouvoir être considérés comme une valeur ajoutée réelle, et les autorités devraient pouvoir soutenir la production d'informations fiables. Et c'est pour nous, c'est ce que cela expliquerait aussi l'importance un peu d'avoir ce qu'on pourrait considérer comme une spécificité de la taxation, un peu de l'imposition pour les médias, parce que comme il l'a dit tout à l'heure dans le reportage, les médias, les entreprises de médias ne sont pratiquement pas des entreprises de maçonnerie ou des entreprises d'ameublement ou de menuiserie. Cela dit donc, il est important d'aller vers ces dialogues-là, et c'est un peu à l'échelle régionale. Maintenant, sur la question un peu du droit à l'information, s'il est important de notre point de vue aussi que cela puisse pouvoir être protégé par les autorités, c'est extrêmement important que les autorités qui ont ce rôle, qui ont ce devoir-là de protéger la production d'informations, le droit à l'information, pour que les millions et les millions de citoyens de la zone d'Afrique de l'Ouest ne puissent pas être privés d'un droit fondamental qui est le droit à l'information. Et enfin aussi, pour nous, les journalistes doivent pouvoir aussi être protégés. Ils doivent pouvoir continuer à travailler, quels que soient les sujets, mais avec toute la responsabilité nécessaire, en tenant compte un peu de leur ligne éditoriale, mais également, ils doivent être protégés sans risque de crainte et de représailles par les autorités ou les lobbies ou les autres puissances d'argent qui tournent autour du marché de l'information.
Voilà. Merci infiniment, Sadi Boumaran. Vous êtes directeur du Bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières. Un grand merci également à tous ceux qui ont réagi sur ce sujet sur les réseaux sociaux. La suite, c'est dans quelques instants.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Rendons-nous maintenant au Nigeria. Dans ce pays en proie à une insécurité alimentaire, de jeunes Nigériens et des start-up cherchent à révolutionner le secteur agricole grâce à la technologie. Dans l'état de Kaduna, Chamoudine Djibril a inventé un drone capable de détecter les maladies des cultures. Depuis Abuja, au Nigeria, le reportage d'Alassane Bala, le récit est de Lionel Gaïma.
Dans leur petit espace de travail à Kaduna, état du nord-ouest du Nigeria, Chamsoudine Djibril, 24 ans, et son équipe créent des drones conçus pour détecter les maladies des cultures et pulvériser des insecticides. Une enquête nationale sur l'agriculture réalisée en 2022 a montré que certains agriculteurs nigérians perdaient jusqu'à 80% de leurs récoltes à cause des ravageurs et des maladies. Djibril affirme que sa jeune entreprise, Vora Robotics, contribue à l'élaboration de pratiques agricoles plus efficaces.
Nous utilisons des matériaux locaux disponibles pour le développer afin d'être rentable. C'est le drone local que nous avons fabriqué. Il est temps de réfléchir à la manière dont nous pouvons apporter des solutions aux agriculteurs et les aider à détecter les maladies dans leurs exploitations.
Djibril explique que le drone prend des photos des cultures et les envoie à une application que lui et son équipe ont créée et qui analyse et fournit des résultats en quelques minutes.
Cette application vous indiquera les symptômes et les traitements à appliquer à l'exploitation en question. Elle vous indiquera aussi le produit chimique que vous êtes censé utiliser, peut-être en fonction du type de produit. Est-ce pour l'herbe ou pour les insectes?
Rien qu'en 2024, les producteurs de gingembre ont perdu plus de 7 millions de dollars de récolte à cause de la maladie. Lawal Ibrahim Dambouchia, un agriculteur, explique que l'incapacité à détecter les maladies des cultures à un stade précoce les désavantage considérablement.
Si nous pouvons avoir un drone qui détecte les maladies des cultures, cela nous aiderait beaucoup. En tant qu'agriculteurs, nous ne connaissons pas vraiment les maladies au stade initial. Nous les connaissons mieux lorsqu'elles deviennent graves. Honnêtement, quand on voit comment cette machine vole et fonctionne, c'est une très bonne nouvelle pour nous.
Les experts agricoles affirment que le gouvernement nigérian peut faire davantage pour promouvoir l'utilisation de la technologie dans le secteur agricole. L'un d'entre eux, Ezekiel Boulous Doka, estime qu'une technologie telle que le détecteur de maladies de culture peut changer la donne dans la recherche de la sécurité alimentaire au Nigeria.
Il y a tant d'innovations qui peuvent transformer l'agriculture nigériane, mais comment les autorités les acceptent-elles? Comment les font-elles avancer? Comment se battent-elles pour qu'elles soient produites à grande échelle?
Djibril et son équipe espèrent recevoir le soutien du gouvernement et du secteur privé pour étendre leur innovation à l'ensemble du pays.
Vous avez certainement reconnu la voix de Arzuma Compaoré en lieu et place de Lionel Gaïma. À présent, le fait marquant de la semaine. Au Mali, une dizaine de personnes sont mortes et plus de 10 000 autres sont sinistrées dans des inondations enregistrées du 1er au 15 août selon le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Pour faire le point de la situation, retrouvons à Bamako Sékou Tangara. Il est le directeur de Africable, une télévision partenaire de VOA Afrique. Bonsoir Sékou Tangara.
Bonsoir Mohamed.
Alors, on l'a suivi, hein, il y a eu des inondations à Bamako et dans d'autres villes du Mali qui ont causé beaucoup de dégâts. Quelle est la situation actuellement? Est-ce qu'il y a toujours des inondations? Et quel est le bilan le plus récent que vous avez?
Oui, cet après-midi même, le comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes naturel a réactualisé le bilan. Il s'agit plus de 15 morts, hein, comme évoqué. Le bilan, il a vraiment évolué. On est aujourd'hui à 22 pertes en vies humaines, 104 blessés, 700 cas d'effondrement et 81 inondations depuis le début de la saison des pluies. Donc, c'est un bilan qui a véritablement évolué depuis.
Alors, Sékou Tangara, comment expliquer cette situation? Comment expliquer qu'il y ait autant de morts, autant de dégâts? Qu'est-ce qui se passe?
La situation, elle peut être de deux ordres. Il y a une première situation qui peut être une explication naturelle. Ce sont les changements climatiques. Donc, ce sont des situations souvent dont on ne peut absolument rien. Mais la deuxième explication aussi peut être l'entêtement souvent de certaines populations à s'installer, à construire le long des emprises des fleuves, des marécages. Pour ce qui est le cas de Bamako, la plupart des inondations sont dues à ce type d'installation anarchique le long des lits des marigots, le long des lits du fleuve. Donc, au-delà du changement climatique, il y a une responsabilité souvent qui peut être imputée à des personnes, soit peut-être par négligence ou par souci de déconcentration en allant s'installer dans des endroits qui ne sont pas du tout appropriés pour cela.
Alors, maintenant que le drame est arrivé, comment est-ce que les populations s'organisent pour faire face à la situation et est-ce que le gouvernement a pris des mesures pour remédier à la situation?
On a vu le gouvernement sur le terrain à Abla lorsqu'il y a eu des inondations à Abla. Des ministres se sont déplacés pour aller réitérer la solidarité de l'ensemble du peuple. À Gao également, on a vu les autorités locales. Mais à part cela, la plupart des actions de soutien sont organisées souvent via les réseaux sociaux par des donateurs, des organisations caritatives qui essaient de s'organiser pour venir en secours à ces nombreuses personnes qui ont souvent quitté leur maison et dont des écoles publiques servent pour le moment d'abri en attendant peut-être éventuellement la rentrée des classes.
Merci beaucoup Sékou Tangara, directeur de Africable, une télévision partenaire de VOA Afrique.
Merci.
Rendons-nous maintenant en Côte d'Ivoire pour la note positive de cette édition. C'est pour découvrir un restaurateur ivoirien atypique, un Américain dans l'âme. Il s'agit de Maxwell Goris, propriétaire des restaurants Texas Grills à Abidjan. Il est très connu des Ivoiriens et ses plats attirent beaucoup de monde. Notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenyo, est allé à sa rencontre.
un restaurant typiquement américain. La décoration parle d'elle-même, avec un espace qui vous fait sentir comme au Texas, dans le sud des États-Unis. Maxwell Goris, le propriétaire, n'a pas fait ce choix par hasard.
J'ai toujours voulu, depuis que je suis petit, regarder des films et tout ça, donc je me sentais toujours américain dans l'âme et dans l'esprit. Et donc c'est ce qui m'a amené à donner un nom aussi américain à la bouffe que je fais, en fait. Donc Texas Grill vient du fait que le Texas, c'est le berceau du barbecue et tout, et grills, c'est pour, en Afrique, nos grillades, c'est pas du barbecue, c'est les grillades. Donc, on appelle grills pour, à l'Afrique, Texas pour le berceau du barbecue.
C'est en 2013 que Maxwell s'est lancé dans le métier de restaurateur. Au début, il préparait ses plats sur une seule table, à l'entrée d'une boîte de nuit. Avec le temps, il a fini par agrandir son business.
Donc, on a, généralement, on appelle ça ici le frit fromage. C'est un plat qui est composé de viande, c'est une variante du Philly cheesesteak américain. Et donc comme on n'a pas le bon pain pour faire le Philly cheesesteak, on le dépose sur une assiette de frites. Voilà, donc vous allez le découvrir.
Après 10 minutes de préparation, le plat est enfin prêt. Il a eu le temps de nous montrer une autre de ses spécialités, en l'occurrence un plat de côte de bœuf avec une portion d'aloco. Mais le parcours de Maxwell ne s'est pas fait sans embûches.
J'avais un restaurant à la Riviera 3, un restaurant qui était beaucoup fréquenté. Un jour, la mairie nous appelait pour dire qu'ils doivent casser parce que ça fait... L'État a décidé de casser parce que ça fait... trop d'embouteillage. Tout compte fait, je pense que 2-3 jours après, les machines sont venues et ont détruit le restaurant, notre premier restaurant. On a eu un gros soutien de toute la population ivoirienne et en tout cas, dès que je suis venu, que j'ai vu que les machines avaient détruit, moi j'avais levé la main, puis je me suis promis à moi de ne jamais m'apitoyer sur mon sort et de toujours rebondir quel que soit le problème.
Maxwell possède aujourd'hui 6 restaurants dans la ville d'Abidjan. Il reçoit régulièrement de la clientèle africaine, européenne et américaine. Ange Bijounomeyon pour VOA Afrique, à Abidjan.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Focus Sahel, une émission que vous pouvez donc retrouver sur notre site web voafrique.com. C'est l'occasion pour moi d'inviter nos téléspectateurs, nos auditeurs et nos internautes à commenter sur les pages digitales de VOA Afrique. Je vais vous lire par exemple ce commentaire de Charles Bazema qui a réagi sur le sujet principal. On parlait aujourd'hui de la presse, la situation de la presse dans le Sahel. Charles Bazema qui a envoyé ce commentaire. Il dit « Dans une crise sécuritaire, la presse ne peut être libre, car toute publication peut être considérée comme démoralisante des soldats au front ou faire la propagande de l'ennemi. À mon avis, dans cette situation, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire sur tout ce qui se passe sur le théâtre des affrontements, mais la presse sahélienne doit être plutôt une presse de sensibilisation des peuples, de réveil des consciences pour soutenir ceux qui se battent pour la libération de ce pays. Merci beaucoup à Charles Bazema, un fidèle auditeur de VOA Afrique. Un grand merci également à tous ceux qui ont commenté sur le sujet. Et c'est avec ce commentaire que nous allons mettre un terme à cette édition de Focus Sahel. Un grand merci au public qui nous a accompagnés dans ce voyage. Merci également à notre invité Sadi Boumaran de Reporters sans frontières qui était avec nous depuis Dakar au Sénégal. Et à tous ceux qui ont contribué avec leur expertise et leur point de vue. Enfin, je tiens particulièrement à remercier tous nos correspondants qui nous ont apporté les nouvelles fraîches de la région. C'est le cas de Alidou Ouidraogo qui était en ligne avec nous depuis Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Mouhamadou Oumfa à ce micro, Arzuma Compaoré et Georges Léonard Sagno, l'homme au doigté magique, étaient là pour la production de cette émission. Un grand merci d'avoir écouté et regardé Focus Sahel. À très bientôt sur VOA Afrique. Au revoir.